Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zat. De grève. Du gaz de schiste.
De gisement, de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Quelle info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a le droit de se marquer d'un gosse en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent une grève, sont des menaces
totalement. Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19h08, on est vendredi, vous êtes bien sur le 102.2 FM, vous n'êtes pas sur France Inter, donc aujourd'hui on n'ouvrira pas un journal en vous disant les pauvres patrons du 440, comme ça a été entendu tout à l'heure, ils sont embêtés parce qu'il y a des gens qui manifestent devant l'AG de Total et qui embêtent un petit peu le patron de Carrefour, donc rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. De quoi on va parler ce soir ?
Alors ce soir, on a la chance avec nous d'être avec le collectif de Grand Clément, donc on va avoir un petit entretien avec eux.
Du coup, ils vont nous raconter les déboires et les victoires, peut-être, on verra.
Et beaucoup les déboires, surtout les déboires pour l'instant, malheureusement. Ouais.
Malheureusement, mais qui sait, peut-être ça ira mieux. Et puis, quand on vous parle de Grand Clément, c'est à Lyon, on vous parlera un peu de l'invitation au carnaval populaire, puisque le lieu devait tomber à 19h, on n'a pas regardé, mais ça se trouve, ça existe. Ça se trouve, le lieu était donné. En tout cas, on en dira un petit mot, le lieu est tombé. Voilà.
On va parler aussi de l'avenue de Depardieu à Lyon, qui n'est pas vraiment bienvenue, mais qui vient quand même.
Et puis en continuant de trucs pas bienvenus, il y a les JO à Paris et puis le nettoyage de tous les SDF, parce que quand même les JO c'est rigolo, alors faut que ça fasse propre, et du coup toutes les personnes qui dorment dehors se font, j'allais dire évacuer, c'est pas évacuer le terme, c'est expulser et mettre ailleurs, parce que les gens disparaissent, c'est vachement pratique comme ça.
Et ensuite, on aura notre fameuse rubrique animaux. On va parler coquilles d'œufs et hérissons. Voilà.
Ça va être
petit
super.
Petit teaser, ça va être super.
Une rubrique piquante.
Oh. Ah, on a un peu de jeu de mots à Grand Clément. Hein.
Merci. Bon,
il faut avec la clientèle. Hein.
Et ensuite, on vous présentera l'agenda de la semaine. Si jamais vous ne savez pas quoi faire, on vous donnera 2-3 petits trucs sympas et rigolos à aller faire cette semaine.
Et on terminera par notre ACAB.
Et le traditionnel ACAB. Alors du coup, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 04 78 39 18 15 pour nous donner vos meilleurs ACAB.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Allez, viens, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. On chante, on résiste.
Et pour chanter, pour résister, et ben ce soir, il y a le carnaval populaire à Lyon. Alors, c'est super, le lieu a été donc dit à 19h, c'est place de la Croix-Rousse, rendez-vous à 20h. Il y avait peut-être un petit atelier pour faire des banderoles et tout. En tout cas, on va juste vous lire, comme on imagine que vous êtes en route et que ben, finalement, à 20h, on va finir l'émission, vous pourrez commencer le carnaval, et quand même, ça se goupille bien. Et ben, on va vous lire le petit communiqué qui vous invite à venir. On l'a vu ces dernières semaines et ces derniers mois, nous sommes des millions à nous mobiliser contre la politique du gouvernement et plus largement contre ce système capitaliste à bout de souffle. Nous avons marché, nous nous sommes révoltés, nous avons casserolé, l'heure est désormais à la fête. Organisé par des militantes et militantes associatives et autonomes, le Grand Carnaval Populaire est un événement engagé qui reprend les bases du carnaval des origines, à savoir son esprit libertaire et populaire. Le rendez-vous ne fera pas l'objet d'une déclaration en préfecture. La première édition du Carnaval Populaire se tiendra le vendredi 26 avril à 20h. En ce début de week-end, c'est l'occasion d'une mobilisation massive dans la rue pour exprimer de façon festive et déterminée notre refus de la réforme des retraites et du vieux monde de Macron. Le 26 mai, nous nous offrirons un moment de liberté et d'allégresse, tout en y délivrant, au passage, des messages politiques. Il est temps de ne plus perdre, de ne plus accepter les régressions sociales qui vont avec leur lot de politiques autoritaires et discriminantes. Il est temps de se lever et de faire de la fête, car la lutte, c'est aussi la fête. Nous invitons toutes les participants et participantes à venir déguiser et à prendre part et une part active au défilé. Nous invitons par la même occasion collectifs, associations et syndicats à rejoindre cette initiative. Retrouvez-nous dans les rues pour chanter, danser, faire la fête et défiler. Faisons résonner notre rage de vivre et notre volonté de construire un nouveau monde. Voilà, du coup, bah, 20h, après, là, vous êtes certainement en route, vous avez les petits écouteurs dans les oreilles, et vous pouvez aller faire la fête au Carnaval Populaire et des Terres,
à
20h, place de la Croix-Rousse.
Et oui, et du coup, comme on disait, on est en présence du collectif Grand Clément, on est super contents, parce qu'en plus, ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de vous donner des petites nouvelles quand c'est possible, et là, on va carrément avoir en direct des infos. Est-ce que vous voulez un peu vous présenter, nous raconter un petit peu... Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bon, bonjour, Béran Moustapha, je suis membre du collectif de Grand Clément. Si on est là, c'est qu'il y a...
T'es le leader, n'oublie pas, t'es le leader, t'es pas le membre, t'es le leader. C'est important, on va reposer les rôles.
Un leader fatigué depuis deux ans.
Le leader, voilà, t'es le leader du collectif.
Alors, suite au projet de T6, le maire... Cédric Van Stevendey, le maire de Villeurbanne, a choisi et pris la décision d'emblée, sans prendre en compte l'avis des gens et des commerçants, de supprimer le marché historique Grand Clément, qui date depuis 1892. Suite à ça, nous, les commerçants, on a créé un collectif pour dire non à la suppression et oui pour le transfert. Parce que quand on dit transfert, on transfère nos droits. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire concernant le rejet des commerçants. Le tribunal a constaté que dans le processus que le maire il a suivi pour gérer ce projet, il était totalement opaque. Voilà. Ce qu'on peut constater sur ce nouveau marché, les trois quarts des commerçants rejetés sont passés dans la nature. Il y en a qui ont fait appel aux aides d'État, les ressorts. Il y en a qui sont en dépression et il y en a qui ont essayé de s'en sortir de leur manière. Le maire, il a créé, soi-disant, un marché dont même le commerçant qui sont installés là sont pas contents. Ils se sont fait avoir. Il y en a qui sont partis et d'autres envisagent de partir. Le maire a créé un marché fantôme, hors la loi. Les gens qui travaillent sont précaires et ils n'ont aucune autorisation de déballage. Si on parle de l'environnement du marché actuel, c'est un environnement catastrophique. Il n'y a même pas les toilettes correctes et conformes, il n'y a pas la sécurité et même pas les gens qui veillent sur la sécurité. Le maire parle d'un marché qualitatif. Si on y va constater sur place, c'est vraiment un échec. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de produits populaires ni de gamme. Il y en a même des produits qui sont envisageables destinés à la poubelle. Mais ça se vend là. On a constaté des produits qui étaient périmés avec une date d'expiration au-delà de 2 mois. Aujourd'hui, le maire se doit rapidement de nous trouver une solution et d'assurer sa casse sociale et être dans la construction et pas dans la destruction. On a l'impression, ça fait depuis 2 ans qu'on fait des manifestations, que ce maire se fiche royalement des gens et des commerçants et des habitants. On ne connaît pas ses ambitions, mais on n'a pas l'impression qu'il aime les marchés populaires. À aucun moment, il est descendu voir le collectif, malgré qu'on fait manifeste sous les fenêtres, depuis 2 ans, comme on a dit. Il se cache de sa responsabilité, alors que devant lui, un si grand problème. Notre message au maire, personne ne vous demande, parce qu'à un moment, il a dit, ouais, on ne peut pas démolir un immeuble. Bah, personne ne vous demande de démolir un immeuble. Il y a de la place sur la place. Il faut simplement sortir de votre bureau et essayer de nous écouter. Parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup de mal aux commerçants et aux gens du quartier. Nous, les commerçants, on est déterminés et on ne va rien lâcher. Voilà notre message du collectif.
Donc Antoine Pisquin, membre du collectif Grand Clément. Donc c'est vrai que Monsieur le maire d'emblée, donc il a décidé de supprimer le marché. Et je pense que donc ce projet a été très mal engagé depuis le début, si bien qu'on se retrouve avec un résultat catastrophique aujourd'hui.
Non, Philippe Vira, alors moi je suis dans le collectif, en fait je ne suis pas forain, je suis un citoyen assez engagé sur Villeurbanne. Je suis artiste, danseur, chorégraphe et je me suis beaucoup bougé durant les fermetures des écoles de danse et lieux d'art et de culture. J'ai porté beaucoup de manifestations. Ça m'a permis d'avoir un petit peu de réseau, un petit peu de contact, et c'est ce que j'ai mis à disposition du collectif. J'habite à Villeurbanne, je suis à Villeurbannais, et moi je veux un projet de ville où les gens partagent. Voilà, j'ai un projet de ville où les gens se retrouvent tous, notamment dans la rue. Et le marché, ça fait partie de ce projet de ville, un marché populaire, on s'y retrouve tous, que l'on soit personnes âgées, jeunes, plus aisées, moins aisées, on se retrouve tous. Et donc en fait, le projet que porte la ville, c'est de supprimer les marchés. C'est ça le vrai truc que moi je vois derrière. C'est de supprimer les marchés pour que vous alliez tous acheter chez Carrefour, chez Casino, chez Grand Frais, chez Monoprix, chez Paki, parce que parallèlement à la fermeture du marché, dans le quartier de Grand Clément, il y a eu 3 surfaces de taille moyenne qui ont eu l'autorisation de s'installer. Donc en fait, il y a un vrai projet de se dire, voilà, un marché populaire, c'est sale, entre guillemets, il y a une connotation négative. Je veux revaloriser le quartier, donc qu'est-ce que je fais? Je pousse les familles populaires à l'extérieur, je supprime le marché, j'enlève des logements sociaux, je pousse tout le monde au-delà du périphérique et je vais vendre des mètres carrés, je vais vendre des immeubles à 6 000 euros du mètre carré. Donc là, il y a plein de projets de rénovation sur Grand Clément et c'est ça qui est en question. C'est qu'est-ce qu'on fait dans nos quartiers, qu'est-ce qu'on fait dans nos villes et quelle est la place des marchés populaires dans nos villes?
C'est vrai, Philippe, donc, c'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps, donc que ce soit sur Villeurbanne et autour donc, de Lyon, sur la métropole de Lyon. C'est-à-dire que donc j'ai remarqué ça, hein, qu'on a tendance à vouloir faire la chasse au marché populaire. Je dis bien populaire. Donc l'idée, ça serait peut-être, personne ne me l'a dit directement, mais c'est ce que je vois au fil donc des mois, c'est que l'idée peut-être, c'est de supprimer ces grands marchés populaires et de ne faire que des petits marchés de coin de rue avec 4-5 commerçants pour pompeusement dire, ben, vous voyez, vous y a un marché, vous avez votre marché, 4-5 commerçants, voilà. Donc on est en train de, quelque part, de vouloir détruire les grands marchés populaires qui ont existé sur la métropole de Lyon, qui ont servi pas mal de personnes au fil des décennies. Donc Villeurbanne, qui était une ville ouvrière, donc qui a subi la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pour relancer, c'est l'approvisionnement donc des Villeurbannais, c'est bien les marchés qui ont été là, présents. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, je pense.
Et puis on peut se dire, en tout cas, moi je ne suis pas grand spécialiste de la question, mais je trouve quand même, il y a 10 ans à Lyon, en fait, le marché de Grand Clément, il était sur la place Grand Clément, il était vraiment visible, c'était quand même une espèce d'institution, et que déjà il y a eu ce déplacement où il est passé là, sur la rue Général Leclerc, devant l'Immaculée Conception, et déjà, en vrai, le marché de Grand Clément, il n'a plus le droit d'être sur la place Grand Clément, ce qui est déjà quelque chose. Et je trouve par ailleurs, en plus, maintenant il y a toujours des flics. Et en tout cas, moi, quand je passe dans le quartier, je me dis à chaque fois, c'est chaud quand même, cet endroit où il y avait un marché, maintenant, c'est associé à une espèce d'insécurité, parce qu'on met de la police, on fait croire que c'est dangereux. Alors, je ne sais pas bien à quoi ils servent, ces policiers là-bas, par ailleurs. Mais en tout cas, la place du marché, maintenant, elle est occupée par la police, et le marché, il a été d'abord décalé sur Général Leclerc, puis encore plus vers la gare de Villeurbanne. Et ça fait quand même des dynamiques, ça renvoie des trucs qui sont vraiment bizarres quand on connaît un peu Lyon et Villeurbanne, du coup, depuis quelques années, que ce grand marché qui était ouf à l'époque sur la place, il est de plus en plus poussé. Et la place, elle est en train de changer complètement. Je ne sais pas comment vous percevez aussi ces dynamiques-là.
Non, c'est exactement ce que vous venez de dire, en fait. La question, c'est comment on occupe l'espace public, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre espace public. Et les marchés, ça apporte une occupation qui est utile. Vous laissez une place vide sans rien, ben finalement, cette place-là, on ne sait pas bien quoi en faire. Mmh. Et peut-être qu'effectivement, il n'y a pas toujours des bonnes actions qui y sont menées. Tant qu'il y avait le marché sur la place de Grand Clément, c'était une place qui avait son histoire, qui avait sa vie et qui était occupée positivement. Mmh. Donc, mais comme tu le précises, ça fait 10 ans que ce projet est en construction. Hein. C'est vraiment l'idée de dire on pousse progressivement les marchés hors des villes, mais ce n'est pas que les marchés, en fait. C'est qu'on va pousser les habitants. Mmh. On va exclure les habitants de ces quartiers-là. Et progressivement, on va s'attaquer au marché. Peut-être que demain, on va s'attaquer à l'école publique. Bon, on s'est déjà attaqué à l'école publique, hein, parce que de toute façon, l'école publique dans ces quartiers-là, c'est extrêmement difficile. Comme on s'attaque aux points de santé publics de partout, en fait, finalement, on repousse tout. Moi, j'ai vraiment cette vision-là en tant qu'habitant de Villeurbanne. C'est qu'effectivement, on veut une dynamique de ville avec des nouveaux logements, des nouvelles constructions. Et on oublie l'histoire, on oublie le mélange, on oublie la mixité. Et donc, du coup, voilà, on pousse. Donc, ça fait partie de ce truc-là. Et au total, au bout du bout, sur ces places, on va les mettre des forces de police pour faire croire qu'effectivement, c'est plus sécurisé. Alors que des forains, finalement, occupaient naturellement et positivement la place.
Oui, c'est très regrettable. C'est-à-dire que, donc, concernant Villeurbanne, donc là, le résultat, c'est qu'on a démantelé une organisation économique de 204 emplois du jour au lendemain. Voilà, on se retrouve avec un petit car dans un coin de rue. En guise de marché, c'est très regrettable parce que donc ça a une importance économique. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là?
Est-ce que vous pouvez un peu nous... Parce que moi, par exemple, quand j'ai appris plein de mots avec vous, par exemple, abonné, rappel, etc., moi, j'avais aucune idée, économiquement parlant, comment ça fonctionne un marché, en fait, comment ça marche. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu?
Donc, sur les marchés, vous avez une catégorie de personnes qui sont des abonnés, qui ont donc un arrêté du maire qui les autorise à fréquenter le marché régulièrement. Donc, ils ont un emplacement régulier. Et vous avez à côté de cela donc, des journaliers, comme son nom l'indique. Ce sont des personnes qui viennent voir si, à la dernière minute, il n'y a pas un emplacement vide. Parce qu'un tel serait malade ou serait absent, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir que une grosse moitié donc, du marché Grand Clément historique était fréquentée par des journaliers. Okay. Et là aussi, ce n'est pas normal. Comment on peut faire travailler pendant 10 ans, 15 ans, des personnes au rappel, sans pouvoir leur libérer une place d'abonnés. Donc, aussitôt que le projet a été annoncé, donc, tous ces rappels ont disparu dans la nature. C'est pour ça que je disais démantèlement d'un système organisé qui était installé. Okay. Et du coup, donc, on se retrouve avec un tout petit marché où M. le maire a fait une sélection avec appel d'offres. Si bien qu'il n'en a gardé qu'un petit quart. Voilà.
Et ce qui est important dans cette histoire, si je peux me permettre, c'est qu'il y a aussi le fond et la forme. D'abord, on se pose vraiment la question de c'est quoi la politique qu'on veut mettre dans les quartiers, puis il y a la forme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qu'a condamné la justice. Hein. La sélection était complètement opaque. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas pour quelle raison tel ou tel franc a été conservé, si ce n'est qu'on voit bien que les copains, les amis, les camarades ont tous eu leur place, et puis finalement les opposants à ce projet, notamment Mustapha, qui est là, qui était un opposant depuis le début de ce projet, parce qu'il avait bien senti qu'en réalité c'était la destruction du marché qui était en jeu, ben lui il n'a pas eu sa place. Vous avez des forains qui étaient sur ce marché depuis deux générations de famille, à qui on a refusé la place, pour donner leur place à des nouveaux forains qui venaient d'arriver sur Grand Clément. Donc, même des gens historiques, on les a expulsés parce qu'ils étaient dans le combat, ils étaient dans l'opposition, finalement, à la fermeture de ce marché. Donc, tout ce groupe-là qui était dans l'opposition s'est retrouvé expulsé du nouveau marché sans aucune raison. Et c'est pour ça que la justice a condamné la mairie de Villeurbanne en lui disant que le processus de sélection était opaque, du fait, quelque part, illégal, et a demandé à la mairie de revenir sur sa décision, en tout cas de remettre en place un nouveau processus de sélection. Ça fait déjà 15 jours qu'on attend que la mairie se mobilise par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui on n'a toujours pas eu de réponse, malgré la décision de justice qui a reconnu que la sélection était entre guillemets un caractère illégal. Le maire n'a toujours pas pris la parole, ne s'est toujours pas adressé au collectif, et nous continuons à nous battre. On est encore en manifestation, on est rentré dans la mairie la semaine dernière pour quelque part avoir notre droit de parole. On a juste eu un adjoint qui est venu finalement nous crier dessus comme si on était des racailles et des voleurs qui voulaient nous imposer dans la mairie. Et on n'a toujours pas aujourd'hui des réponses du maire, alors que la justice l'a condamné et lui a demandé de reprendre le processus de sélection qui était du coup illégal.
Oui, on ne comprend pas l'attitude du maire Cédric Van Steenvendée de Villeurbanne, parce que nous on est là depuis deux ans, on manifeste pacifiquement. On n'a jamais cassé, ni brûlé, ni agressé personne. Ce qu'on cherche, c'est nos droits. C'est clair que n'importe qui dans notre place, il va faire la même chose. On se sent agressé, on se défend. On a essayé de défendre en restant dans le cadre de la République. Mais on a vu que le maire, il n'a pas bougé, alors on a attaqué en justice. Et ça, c'est tout à fait normal.
La justice, c'est la République, encore. Ça
voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que la municipalité a choisi un mauvais trajectoire pour améliorer, soi-disant, le marché. Parce que si on veut améliorer le marché, c'est pas comme ça, c'est pas avec un coup d'hache. On vient et on arrache un marché historique qui date depuis 1892 et qui est fréquentable par 21 000 villeurbannais, que maintenant les villeurbannais eux-mêmes sur place souffrent. Si on veut vraiment, par exemple, faire un bon marché, il faut suivre par exemple l'exemple de la mairie de Bran. C'est la mairie de Bran, c'est un exemple, voilà, c'est un marché juste, c'est un marché qui ne fait pas de discrimination. L'adjoint de maire chargé de développement et de l'insertion et les placiers qui sont tout le temps sur place, à l'écoute. Il y a une belle politique. Moi, franchement, j'aime bien ce marché. Et bravo à M. Soltana et bravo au maire Jérémy Bréau. Voilà, c'est quelque chose de... Voilà. Il faut le dire. Que quand quelque chose est géré correctement, il faut le dire. Et quand j'ai le contraire, il faut le dire. À Villeurbanne, c'est une gestion catastrophique. Voilà, on ne voit jamais les élus. C'est quand on les voit, c'est quand il y a la campagne électorale. Et ça commence à vraiment, vraiment nous énerver. On les voit deux jours ou trois jours avant les élections électorales. Et derrière, quand ils ont eu leur siège et leur salaire, alors ils laissent les commerçants dans leur... Et ça, c'est pas normal. Parce qu'on les a fait élus, on les a mandatés pour qu'ils viennent à nos problèmes quand il y a des problèmes. Là, il y a un gros problème. Il y a vraiment un problème colossal, parce qu'on n'a jamais vu un mouvement qui dure deux ans, un mouvement qui a fait autant de bruit. On a même sollicité pas mal de personnalités, pas mal de politiciens. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas positionnés. C'est dommage. Dommage aussi le soutien qu'on avait de certains, on va dire, certains comme la préfecture, par exemple, qui nous soutenait au début, et on voit petit à petit, elle nous lâche. Voilà, au début, on avait le droit de manifester avec nos camions, avec nos bruits et tout. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, elle nous interdit de faire
d'exercer nos droits.
C'est-à-dire quand vous demandez, quand vous déclarez une manif avec les camions pour les manifester finalement votre mécontentement,
oui.
A priori pas.
Nous quand on déclare,
ils ont plutôt autorisé, on va dire ça comme ça. Avant la preuve vous disait ok c'est bon, elle vous validait la manif, et que maintenant elle vous interdit le droit de manifester du coup.
Voilà, c'est dommage. Est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce changement?
C'est le même système. Hein.
Nous avons depuis le début toujours appelé M. le maire au dialogue, à la discussion, pour essayer de trouver une solution. Alors, il y a deux aspects dans ce sujet, c'est-à-dire que vous avez le grand marché historique, donc sa suppression qui est un gros problème. Voilà, bon, ça a été supprimé, donc M. le maire l'a supprimé. Et donc, de ce qui en découle, c'est... Donc, le petit nouveau marché qu'il a fait, donc fièrement, donc de son côté. Mais donc, ce petit marché ne répond pas aux besoins, aux attentes. Donc, nous avons une dizaine de personnes qui sont toujours donc mis de côté. Et cette dizaine de personnes, il va falloir les recaser. Donc, c'est l'objet donc du jugement dernier donc du tribunal administratif, où donc le tribunal administratif a enjoint Monsieur le maire à réexaminer donc les dossiers en question. Donc nous attendons une issue favorable pour que ces 10 personnes puissent réintégrer le marché, le nouveau petit marché qui a été créé. Parce qu'il faut savoir que depuis le 1er janvier, donc ces collègues n'arrivent plus à travailler. Donc ça fait déjà 5 mois qu'ils ne travaillent pas. Et personne ne s'en soucie, c'est toujours pareil, la même histoire. On supprime un marché, donc on démantèle un marché de 204 emplois, on ne s'en soucie pas. Nous avons demandé donc à la métropole, essayer d'interpeller la métropole qui est partie prenante du projet donc, du quartier de Grand Clément et du T6. Personne ne nous a répondu. Voilà. Donc Monsieur le maire, lui, donc, il n'a rien dit là-dessus. Et ce qui nous étonne, c'est que vous lancez un projet, vous ne faites pas attention à ce qui existe sur place et vous ne faites pas attention au devenir donc, des commerçants qui sont sur place.
Non, c'est pas qu'ils ne font pas attention, c'est qu'ils ne veulent plus que vous soyez sur place. En fait, le projet, il est clair. La suppression de la place, du marché sur la place, on vous a décalé sur le côté, donc déjà pour vous cacher un tout petit peu, et maintenant on vous repousse encore un petit peu plus loin. Le projet est clair. Voilà. Et ils n'ont pas d'intention de donner de l'attention.
Alors,
là, je rappelle juste aussi, parce que des fois les auditeurs ne le savent pas, le plan du tracé du T6 ne gêne en rien l'existence historique du marché. C'est-à-dire que la place Grand Clément va rester exactement à la même place Grand Clément en termes de superficie. Et je dirais même les trottoirs qui accueillaient, on va dire, la deuxième version du marché une fois qu'on avait libéré la place Grand Clément, les trottoirs vont avoir exactement la même superficie. Le T6 va prendre l'espace de la voie de circulation. Ce qui fait qu'il y a toute la place possible et nécessaire pour accueillir le marché. C'est un choix de ville, c'est un choix de quartier. C'est qu'est-ce qu'on veut dans nos quartiers. Et en l'occurrence, on ne veut plus de marché. Et moi, je pense vraiment, avec même un peu plus de provocation, on ne veut plus de forains immigrés, on ne veut plus d'épices qui sentent trop fort, on ne veut plus de toutes ces choses-là qui peuvent parfois choquer le bien-votant national, entre guillemets. Donc moi, je suis toujours resté dans cette conviction-là. C'est un vrai projet, parce que la place, elle est là. On n'a pas de problème de place. La place, elle est exactement toujours là. Donc c'est juste l'intention de supprimer ce type de marché. Et je pense que le message, il faut quand même le faire passer. Hein. Il ne faut pas se voiler la face, entre guillemets.
Parce que si on passe sur le terrain, on voit très bien que, par exemple, la distance linéaire, si on appelle ça la distance linéaire sur l'ancien marché, on était sur 378 mètres linéaires. Et là, on se trouve sur Réguillon, sur 450 mètres linéaires. Alors expliquez-moi comment on ne peut pas intégrer tous les commerçants. Parce que là, il dit certes qu'il y a les arbres, des obstacles et tout, mais expliquez-moi aussi pourquoi la dernière fois, ils ont fait un vide de grenier, ils ont mis les commerçants sur le pavé. Et quand on met sur le pavé, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'obstacles. Ils ont fait intégrer
Nous avons bien compris que la volonté politique n'y était pas. C'est d'ailleurs pour ça, je disais, donc je reviens donc sur la métropole. La métropole, on n'a jamais eu de contact, d'explication là-dessus. Donc là, avec pas mal d'insistance, nous avons réussi à décrocher donc prochainement un rendez-vous donc auprès de Madame Vessier de la métropole. Donc ça sera courant du mois de juin. Donc nous allons voir ce qu'il est possible donc, d'envisager. Voilà. C'est regrettable que c'est seulement au bout de 2 ans que la métropole commence à réagir. Voilà. Alors que donc, la métropole aurait dû réagir dès le début et venir ouvrir le dialogue avec nous, les commerçants. Ça, c'est regrettable.
Oui, on fait appel aux politiciens, on fait appel à Bruno Bernard, on fait appel à Monsieur Vauquier, qui fait, voilà.
Ils vont pas t'écouter là-bas, oui. La région, t'inquiète. Ils
oui, si
je... à 1 million d'euros, là.
Voilà.
Je ne sais pas si
c'est pas normal qu'un aussi gros problème comme ça. Et ben,
nous sommes, nous les commerçants, tellement pris par le travail. Donc, nous ne faisons pas tous les jours de la politique, mais en cas de difficulté, nous pensions que nous pouvions compter donc, sur nos élus pour faciliter les choses, dialoguer et ainsi de suite. Eh bien, on s'aperçoit que donc, nous avons donc, un problème, un très gros problème qui nous tombe sur, sur le coin de la tête. Et on s'aperçoit qu'il n'y a personne. Donc on demande à dialoguer, on n'a personne, aucune institution qui réellement cherche le dialogue. On cherche, on leur court après. Et donc ce sont des gens qui se défilent. Nous, ça fait 2 ans que nous sommes devant les fenêtres de M. le maire. Le maire n'est jamais descendu discuter. Il peut avoir les idées qu'il veut, mais il peut néanmoins venir et dire bonjour. Voilà, donc voilà, c'est nous dire qu'il a cette intention ou toute autre intention. Nous avons donc le conseil municipal, je n'ai vu personne du conseil municipal, à part 2-3 personnes, descendre donc sur la place, venir nous voir et nous dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Nous, je suis peut-être, donc, je ne sais pas, naïf de penser que donc on peut, en cas de problème, compter sur nos élus pour solutionner telle ou telle chose. Eh bien, je m'aperçois que non, on peut plus compter. Voilà.
Les élus, c'est la source du problème. Donc,
non, mais j'en suis vraiment déçu. Donc, voilà, il faut batailler. Mais bon, s'il faut batailler 2 ans, s'il faut batailler 3 ans pour arriver donc, à démontrer que finalement, ce sont les commerçants et le travail qui a raison sur certaines choses, eh bien, nous bataillerons et nous démontrerons que le travail aura raison sur certains aspects politiques.
Qu'est-ce qui est vraiment fou, c'est quand même, je trouve que ça fait 2 ans que vous manifestez, que vous arrivez à vous mobiliser, parce que c'est pas toujours facile de se mobiliser contre les mairies, il y a une forme d'impuissance aussi que ça peut faire vivre, parce que finalement, bon, vous n'êtes pas concerté, on vous tèche de votre travail, et quoi, et de rester déjà de réussir à se mobiliser, et de se mobiliser aussi longtemps, en tout cas, je trouve ça fou, je trouve ça hyper classe, et de se dire qu'il y a quand même ça, vous avez été jusqu'à porter l'action en justice, gagner devant les tribunaux, alors certes, ça vous donne pas votre place, et on ne peut pas dire que c'est la victoire qui résout tout, mais quand même, c'est aussi un moment de dire... Enfin, moi, je trouve ça chouette de se dire qu'il y a encore des gens qui sont capables de faire collectif, de se mettre ensemble et de se dire, en fait, ça, c'est pas OK, c'est pas normal. Et avec les armes, et chacun se bat avec ses armes, bah, d'arriver à tenir aussi longtemps, parce que quand même, ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est hyper long. En vrai, avec pas beaucoup de victoires, je trouve, sur ces 2 ans, vous avez pas eu des petits trucs pour vous faire avancer. Et rien que ça, en vrai,
c'est ce qu'on reproche à la justice, parce que là aussi, leur jugement, il n'était pas clair, il n'était pas exigeant, parce que ce qu'on attendait, nous, c'est vraiment, il y a une forme d'irrégularité, une forme de mépris de la municipalité. Ils ont fait une sélection qui est pas normale, qui est pas transparente, sans la présence des éléments, des gens qui sont là pour cette sélection, comme la commission des marchés, les syndicats, les représentants et tout. Il n'y avait personne. La sélection, elle s'est faite dans un coin de bureau avec 2 ou 3 personnes. Et ça nous révolte. Ça, c'est pas normal dans une république comme la France. Et on se demande pourquoi ils n'ont pas exigé au maire de refaire la sélection. Voilà. La sélection, elle s'est faite pas dans les normes. On refait la sélection. Nous, dans ma logique, c'est comme ça. Les choses ne se sont pas faites correctement et on doit retourner la page et refaire la sélection telle, voilà, dans les normes.
Oui, c'est vrai que le jugement donc, du tribunal a été quand même assez soft du côté du maire, parce que donc, finalement, on s'aperçoit bien qu'il y a le terme opacité, demande d'annulation de la décision, demande de réexamen. Donc voilà, c'est quelque part, le jugement n'a pas trop tapé non plus sur, sur la mairie. Elle leur a demandé donc de revoir leur copie. Et je pense que M. le maire aurait dû saisir donc cette occasion pour au plus vite donc apaiser les choses, donc déjà engager un dialogue, ne pas s'enfermer et dire voilà, bon ben je vais faire le nécessaire et ainsi de suite. Parce que donc nous, c'est ce qu'on attend, hein, c'est qu'à la suite de ça, que l'on puisse réintégrer les collègues. Donc si M. le maire veut toujours s'entêter malgré donc la décision du jugement, donc et je le dis bien, hein, ce jugement, il dit, voilà, donc finalement, monsieur le maire, il faut revoir votre copie. Ça aurait pu être un autre terme, hein, donc, du juge. Voilà, donc, je pense que, donc, monsieur le maire, avec une décision aussi, aussi soft, pourrait donc, engager une action, le dialogue, pour aboutir et fermer au plus vite ce dossier.
Oui, parce que nous, c'est un message clair et net, ça fait 2 ans, on ne va rien lâcher, on est déterminé. Mais même si ça reprend encore 2 ans, encore plus, on est là. On est déterminé jusqu'à 2026. Et ça, c'est une promesse du collectif. On ne va pas bouger jusqu'à 2026, jusqu'à la campagne électorale. Et même s'il le faut, un autre mandat, on va attaquer. C'est notre droit. Notre droit, c'est de travailler comme tout le monde. On ne demande pas autre chose. On ne demande pas la charité. On demande à travailler comme les autres commerçants dans nos droits. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche. On ne cherche pas autre chose que travailler. C'est le message de même de mes collègues. Mes collègues, ils cherchent qu'à travailler. Mais qu'est-ce qu'ils font toutes les manifestations? Ils sont assis à attendre que le maire y descend, malgré que on le voit très très bien qu'il ferme son bureau et que, entre parenthèses, il méprise.
Ouais, ils ont du mépris.
Et il donne une inconsidération aux commerçants comme s'il n'existait pas devant ses fenêtres. Ça, franchement, c'est une attitude inadmissible.
Non, mais moi, je pense que donc, on ne peut pas s'entêter, on ne peut pas engager un bras de fer lorsqu'il s'agit donc de défendre en face le travail. Donc, dès qu'il y a le travail en jeu, donc les gars, ils seront toujours déterminés, ils ne lâcheront rien, et c'est le cas ici. Donc ici, l'enjeu, c'est le travail. Mmh. Et donc, le travail l'emportera, et on ne lâchera rien. Donc, engager un bras de fer là-dessus, c'est inconscient.
Puis en plus, vous êtes un exemple aussi pour les prochains marchés, parce que vous disiez qu'il y avait un projet de la ville, de repousser un peu les populations, et puis en fait, il y a aussi le marché de gratte-ciel qui va être touché par ça.
Et justement, là-dessus, donc nous avons pas mal d'échos sur d'autres marchés qui pourraient arriver, pareil. Et là, nous allons faire un appel à d'autres collègues qui travaillent sur les autres marchés. Soyez vigilants, ne lâchez rien. Préservez vos emplois si vous voulez continuer encore des décennies, ou si vos enfants veulent reprendre votre activité. Non, ne lâchez rien. C'est maintenant qu'il faut réagir. Donc, vous avez notre exemple à nous. Nous n'en sommes pas encore terminés, sortis d'affaires. Mais soyez vigilants, parce que donc, à cette allure-là, dans quelques temps, il ne restera plus de marché populaire sur la métropole de Lyon.
Et si jamais on a envie de venir vous voir pour un peu se dire comment est-ce qu'on peut vous aider, où est-ce qu'on peut vous trouver, est-ce que vous voyez, si les personnes qui nous écoutent, elles ont hyper envie de vous prêter main forte.
Le collectif, il est en permanence présent sur le marché Grand Clément à l'entrée pour manifester toujours et mardi, jeudi et dimanche le matin sur le marché, ou sinon mardi et jeudi l'après-midi sur l'esplanade de la mairie. Okay. Voilà, toujours mobilisé et toujours à la demande de ses droits. Ce qui est regrettable, et c'est un message à tous les responsables, tels que les élus, c'est vraiment regrettable et c'est vraiment décevant de leur part de pas venir nous voir, à part certains élus comme l'opposition et tout, qui s'intéressent à notre problème et qui viennent nous voir pour... voilà.
On voudrait aussi remercier donc Libel Urbanais qui nous ont soutenus à travers la pétition, 6000 signatures. Et donc nous les invitons régulièrement à venir nous voir, prendre de nos nouvelles, montrer leur intérêt pour notre cause. Notre cause, c'est aussi quelque part indirectement leur cause également, parce que donc il s'agit de préserver le commerce de proximité. Et le commerce de proximité, donc ça a une très grosse valeur dans un quartier, donc ça apporte de la vie. Donc vous avez beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer pour s'alimenter, donc s'approvisionner. Donc le marché populaire de quartier, c'est toujours bienvenu. Ça, nous, nous en sommes conscients, nous les commerçants. Hein. Donc là, on constate que donc, les élus, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas à quoi ils pensent, mais ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à quelque chose de positif. Donc il faut absolument, absolument donc, réintégrer donc, ces marchés populaires et les développer, s'il le faut. Bon, je comprends que donc, la gestion d'un marché soit un surcoût, voilà, donc ça demande du travail pour les municipalités, mais c'est comme ça. Donc les grands marchés populaires, c'est quand même une grosse entreprise, quand vous avez 200, 250 commerçants, donc ça demande des moyens, eh bien, il faut mettre les moyens, je pense, voilà, et c'est le rôle des municipalités de faire vivre leur commune. Voilà, donc on ne peut pas, voilà, j'ai un problème, je supprime le problème et je suis tranquille. Cette philosophie-là, bah, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais.
Je rejoins mon collègue, c'est un combat pas individuel, ce n'est pas le combat que des commerçants, c'est un combat qu'on fait aussi pour la population, les gens du quartier. Et je prends l'occasion aussi de remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup notre conseiller juridique, M. Nicolas Meyer, qui a fait tout pour cette petite victoire, et aussi pour les villes urbaines qui nous ont soutenus, aussi pour les commerçants qui restent mobilisés, le membre du collectif qui reste mobilisé, malgré qu'ils ont pas mal d'occupations, pas mal de soucis et tout, mais ils sont là pour montrer leur colère en face et sous les fenêtres de la mairie.
Merci beaucoup, vraiment,
merci.
On est super content que vous soyez venu, et puis on espère que vous aurez des grandes victoires, enfin peut-être des plus grosses victoires à l'avenir.
Merci beaucoup, merci à Radio Canu.
Merci à Radio Canu.
C'est sympa, et on aura l'occasion certainement de revenir.
J'espère que vous reviendrez avec des
victoires. Pour vous donner de nouvelles du marché.
Et puis on va enchaîner avec d'autres gens qui lâchent rien pour la venue de Pardieu à Lyon.
Invisible, disponible, libre et irréductible.
Canu. Info.
Il est invisible, il est disponible, libre et irréductible.
Attitude féministe.
Nous sommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi.
Et bah ouais, il y a d'autres gens qui lâchent rien parce que Depardieu il lâche rien dans la connerie et du coup on va pas lui laisser passer grand chose. Du coup on va faire un peu bref, mais on va quand même vous dire qu'il y a Nous Toutes et la Gérotraite Féministe qui vous invite à venir protester contre la venue de Gérard Depardieu à la Bourse du Travail qui vient en plus pour chanter Barbara. Voilà, alors vous retrouverez le communiqué sur Rébellion, et en tout cas on vous lira juste cette partie. Ensemble protestons contre l'impunité des agresseurs, refusons d'être complices de la culture du viol, soutenons les victimes des violences sexistes et sexuelles, et allons faire du bruit face à Depardieu. Le rendez-vous, c'est samedi... Ah merde, j'ai un doute. C'est samedi, c'est ça. Samedi 27 mai, c'est devant la Bourse du Travail, avec les pancartes, votre colère, et évidemment, comme c'est la tradition depuis quelques mois, vos dispositifs sonores portatifs.
Je suis l'emblème de Paris 2024.
Et n'ayez pas peur de mon gueule.
Mon visage est né de la rencontre de trois symboles. La médaille d'or. Inaltérable comme la volonté. Éclatante comme le talent. Éternelle comme la victoire. La flamme. Olympique et paralympique. Celle qui rassemble autour des valeurs du sport. Au-delà des frontières, des nations, des générations. Celle qui anime les plus grands créateurs. Marianne, qui porte l'exigence de progrès pour tous, dont l'esprit français révèle une ambition, celle de l'égalité, du partage, de la générosité. Un visage pour mettre l'humain au cœur des Jeux. La médaille d'or, la flamme, Marianne, réunie pour la première fois de l'histoire derrière une même identité olympique et paralympique. Je suis l'emblème de Paris 2024.
Les valeurs du sport, au-delà des frontières, des nations, des générations, Marianne, l'égalité, le partage et la générosité, bla bla bla. À l'écoute de ce clip officiel des JO, on y croirait presque. Sauf que si on gratte un peu le vernis de com, c'est un peu moins flamboyant. On vous a déjà parlé des Jeux Olympiques de 2024 parce qu'ils ont justifié la généralisation de la vidéosurveillance algorithmique. On vous en reparle aujourd'hui parce que c'est une véritable machine à expulser qui se met en place dans toute l'Île-de-France. D'abord, ce sont les étudiantes et étudiants qui se sont vus indiquer par le CROUS qu'elles et ils devraient quitter leur logement durant l'été 2024. Leur CROUS leur a ainsi envoyé le mail suivant le 11 mai. Nous vous informons que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques nous demande de mettre à disposition la résidence Crous où vous êtes actuellement logé pendant les mois de juillet et août 2024 pour l'accueil des volontaires et partenaires mobilisés pour l'événement. La résidence devra être vide de tout occupant au 1er juillet 2024. C'est dégueulasse, mais comme d'hab, évidemment, hein, c'est légal puisque le Crous en fait délivre des baux dits précaires. 3000 logements environ devraient être réquisitionnés de la sorte, le tout au nom du patriotisme des Jeux Olympiques. Les Jeux de Paris 2024 sont un événement exceptionnel pour notre pays. Comme l'ensemble des acteurs publics, les Crous d'Île-de-France, dont le Crous de l'Académie de Versailles, sont mobilisés pour leur réussite, explique ainsi à l'Humanité David Martinez, responsable de la com du CNUS. Donc, le CNUS, hein, c'est l'organisme national qui rassemble les Crous régionaux. Alors tout ça est justifié aussi par le fait que l'été est une période durant laquelle il n'y a pas de cours, donc pas besoin pour les étudiants et étudiantes d'avoir à se loger, évidemment, ou en tout cas d'être proche de leur fac. Alors comme le dénoncent les syndicats étudiants, on va donc demander en fait à des personnes précaires, hein, la plupart des étudiants sont précaires et pour une bonne partie pauvres, de déménager à Paris, ce qui, comme chacun l'imagine, est particulièrement simple, le tout pour pouvoir loger les vigiles et autres petites mains des Jeux Olympiques, dont les logements Crous, qui, pour le dire gentiment, sont pas souvent si top que ça. Pour les étudiants donc concernés par cette annonce, le Crous a décidé d'adopter la stratégie du cas par cas et explique que personne ne sera à la rue, chaque étudiant aura une alternative. Alors à nouveau, les syndicats étudiants sont sceptiques, hein, notamment parce qu'il est déjà en contexte normal, il faut des mois pour obtenir un logement en résidence universitaire à Paris, alors miser sur un relogement efficace, ça semble peu crédible. Donc on a notamment un responsable de l'UNEF, hein, qui explique avoir de sérieux doutes quant à la mise en œuvre d'un accompagnement au cas par cas quand on voit les délais pour le traitement de certains dossiers de logement où des étudiants en attente sont à la rue. Il y aura forcément des étudiants ballottés qui vont galérer, dit-il, avant de compléter. Quand on demande à des étudiants de faire eux-mêmes leur état des lieux, je ne pense pas que l'on soit capable de leur organiser un déménagement et un réaménagement adapté à leur situation. C'est vrai que c'est pas très rassurant. Et tout cela rappelle une fois de plus que l'État se fout pas mal des étudiantes et étudiants qu'il maltraite avec une certaine constance un peu sur tous les sujets. En 2018, sur le logement, Frédéric Vidal, donc, qui était à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Julien de Normandie, à l'époque ministre de la Ville et chargé du logement, avaient annoncé un plan de 60 000 logements pour les étudiants qui devaient, donc on était en 2018, avec l'objectif d'apaiser sous 5 ans la tension sur l'occupation de ces fameux logements. Mais bon, 5 ans plus tard, en 2023, selon l'UNEF, seuls 11 000 de ces logements ont été construits. Bon, les étudiants et les étudiantes n'ont pas le monopole des catégories maltraitées par le gouvernement. Et ce qui se prépare pour les personnes à la rue est probablement encore plus dégueulasse et d'une toute autre ampleur. Le gouvernement souhaite en effet inciter les sans-abri, principalement des migrantes et migrants, à quitter la région parisienne avant les Jeux Olympiques. L'argument est qu'en fait, le nombre de chambres d'hôtel disponibles pour de l'hébergement d'urgence sera en chute libre avec l'arrivée massive des touristes. En fait, c'est là une demande des patrons de l'hôtellerie, quoi. De nombreux hôteliers ne souhaitent en effet plus accueillir des publics précaires, car en fait, ils attendent un afflux de clientèle bien plus lucrative lors des Jeux Olympiques, mais déjà avant, lors de la Coupe du Monde de rugby en automne, à l'automne prochain. Pour accueillir les SDF expulsés de Paris, le gouvernement a donc demandé aux préfets de certaines régions de créer des SAS d'accueil temporaire régionaux dans toutes les régions, à l'exception des Hauts-de-France et de la Corse, ce afin de désengorger les centres d'hébergement d'Île-de-France, ce sont les termes utilisés. Les personnes invitées à partir sont censées être prises en charge pendant 3 semaines dans ces SAS avant d'être orientées dans leur nouvelle région vers le type d'hébergement correspondant à leur situation. Le dispositif concerne surtout des migrants et migrantes, hein, qui sont assez nombreux et nombreuses en Île-de-France à vivre notamment à la rue en hébergement d'urgence. Toutefois, précise le cabinet du ministre du Logement, ils ne sont pas uniquement, c'est pas seulement les migrants et migrantes qui sont visés en vertu, n'est-ce pas, du principe de l'accueil inconditionnel. Un accueil bien maltraité en général. Alors cet accueil, il va pas être simple non plus, parce que les élus des territoires dans lesquels doivent être ces SAS ne sont pas forcément ravis de cette décision, parfois d'ailleurs pour de bonnes raisons, hein, puisque le maire d'hiver gauche de Bruz en Bretagne juge qu'en fait les conditions proposées sur son territoire sont indignes, puisqu'en effet, hein, pour le SAS à venir, la préfecture a sélectionné un terrain qui jouxte une voie ferrée et qui est polluée par des hydrocarbures et des métaux lourds. Toujours traiter les pauvres de manière dégueulasse, il faut le faire avec constance. Mais c'est peut-être pas encore là le plus dégueulasse, puisqu'évidemment, une fois de plus, hein, on se fout un peu que ces personnes aient une vie, éventuellement des occupations, une vie sociale, des amis, etc. Il s'agit juste, en fait, de les déplacer. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit de mettre des gens dans des bus, de les disperser sur le territoire, et puis de plus en avoir grand-chose à faire, de ne plus avoir à s'en préoccuper ensuite. On peut difficilement faire plus dégueu, et au-delà du SAS, on doute aussi que des solutions de logement dignes et adaptées soient trouvées dans les 3 semaines imparties, hein, comme promis. Si on se fie à la crise chronique de l'hébergement et du logement, bien connu, on vous en parle régulièrement au Camion Info du vendredi, bah, c'est pas très crédible. Et surtout, ceci cache très mal une opération de com' dégueulasse. Derrière les bons mots humanitaires, l'unique but, en fait, c'est de faire disparaître les campements de fortune pour que les touristes qui vont débarquer du monde entier pour les JO à Paris ne soient pas importunés par la vue de la pauvreté et puissent consommer du sport et du Paris touristique en toute quiétude. En tout cas, voilà bien des actions conformes aux fameuses valeurs du sport, hein, qu'on pourrait résumer par le fait que les plus forts finissent toujours par écraser les plus faibles. Ça marche sur un ring ou une piste d'athlétisme, et ça marche aussi quand il s'agit de cacher ces pauvres que je ne saurais voir.
Je vais revoir un rouminet.
Et alors là, sur notre petite rubrique animaux, on a dit qu'on allait parler d'escargots ainsi que de hérissons. Alors, petit escargot, donc, moi je voulais parler de comment est-ce qu'on fait quand on, malheureusement, on voit un petit escargot avec une coquille un peu brisée, ça arrive souvent, surtout quand il fait, quand il pleut. Et en fait, on peut faire quelque chose. Voilà, ce qui est cool à savoir, en fait, parce que moi je me sens souvent démunie quand on entend crack et on se dit oh non, puis en fait on se dit que bah, en fait il va sûrement mourir, en fait, si on fait rien. Mais déjà, donc, sur les internets, j'ai trouvé un petit tuto. Donc là, ce qu'il faut déjà faire, c'est vérifier l'état de la coquille, parce que en fait, c'est vraiment, c'est sa maison, mais en fait, sans que sa coquille, l'escargot meurt. Donc si jamais on voit un escargot qui est vraiment pas, enfin qui est en mauvais état, il faut le mettre un peu en sécurité, parce qu'il est du coup hyper vulnérable à ses prédateurs. Donc on peut le mettre par exemple dans une petite boîte, le mettre à l'abri. Et le placer, pourquoi pas, une petite feuille de salade pour qu'il puisse éventuellement manger.
Manger un petit morceau,
voilà, pendant sa convalescence, chercher le mot. Et en fait, donc, pour reconcilier sa carapace, qui est possible, il a besoin de calcium. Et où est-ce qu'on trouve du calcium? Et ben dans les œufs, enfin dans les coquilles d'œufs. Donc pour ça, on peut écraser le plus finement possible une coquille d'œuf. Vraiment le plus finement possible pour pas qu'il y ait des morceaux, pour pas qu'il se fasse
presque de la poudre,
voilà, comme de la poudre. Et alors là, sur le tuto que j'ai trouvé, ils disent qu'on peut même le mélanger à de la farine. Alors je sais pas exactement pourquoi, hein. Peut-être il y a des trucs chimiques et tout, faudrait aller voir ça sur internet. Les internets le savent mieux que moi. Et on peut saupoudrer un peu comme ça dans la boîte, et après il y a plus qu'à patienter, parce que l'escargot il va réparer tout seul en fait sa coquille, ce qui est quand même assez ouf. Grâce à son mucus, mais pareil, il faut aller voir sur les internets pour en savoir davantage. Mais en tout cas, ouvrez l'œil, quoi. On peut sauver les petits mollusques fragiles et faire attention un peu à eux. Et ensuite, je voulais parler de hérissons, parce que moi, il y a pas très longtemps, je me suis retrouvée nez à nez avec un hérisson sur une piste cyclable en plein jour, et j'étais un peu paniquée parce que je me doutais bien qu'il était là, que c'était pas normal, mais qu'à la fois, je savais pas trop bien quoi faire. Donc rapidement, parce qu'il est 19h57, faut un peu vérifier plusieurs choses, notamment s'il est blessé, parce que des fois ils sont un peu sonnés, parce qu'il y a des histoires de voitures ou des gens qui font pas trop attention, et du coup ils peuvent être un peu sonnés, mais il faut peut-être juste les protéger un peu pour qu'ils puissent fuir, quoi, ou en tout cas se mettre à l'abri. Il n'y a pas forcément besoin de les toucher, il faut pas les nourrir. C'est une recommandation que tous les sites que j'ai regardés disent. Voilà.
On nourrit les escargots, mais pas les hérissons.
Voilà.
C'est ça qu'il faut retenir.
S'il est en danger, qu'il risque un peu d'être piétiné ou heurté par une voiture, et ben, le mieux c'est quand même de le ramasser, de le toucher, de l'emmener dans un endroit plus sûr. Mais après, il ne faut pas trop le manipuler. Et en fait, surtout, moi ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai enregistré le numéro de la Ligue de protection des oiseaux. Alors, ce n'est pas hyper, on n'y penserait pas comme ça. Enfin, on se dit que c'est un peu bizarre. Mais en fait, eux, ils savent quoi faire, si jamais. On se sent un peu démunis parce qu'on ne sait pas quoi faire. On a trouvé un animal. En fait, c'est pour les animaux sauvages, un peu. en tout cas les animaux qui sont pas domestiques, si on a un doute, on peut les appeler. Donc moi, j'ai leur numéro dans mon téléphone. Donc n'hésitez pas à aller sur les internets pour regarder. Vous tapez LPO Rhône-Alpes, vous allez trouver un numéro. Et eux, ils sauront un peu vous guider en fait en fonction de l'état du hérisson, etc. Donc pareil, du hérisson ou d'autres animaux qui peuvent se retrouver en ville, parce qu'en fait on casse leurs habitats finalement, donc c'est un peu notre faute et il faut quand même qu'on se demande comment prendre soin d'eux. Voilà. Je me rappelle qu'il y a Nimo de la pubule rapide, mais on va passer maintenant à l'agenda.
Ah, je suis
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu info du vendredi.
Bon, bah, finalement, c'est pas très grave, on peut faire le ACAB avant l'agenda. Ça commence par A aussi. Alors,
ça commence par
A. Ça veut dire ACAB cette semaine.
ACAB, ça veut dire au collectif Grand Clément, les abonnés se battent.
Et du coup, maintenant, c'est quoi?
C'est quoi?
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est.
L'agenda!
Et ouais, vous l'aviez deviné, et comme on est d'une ponctualité à toute épreuve, ça va être l'agenda le plus rapide de l'univers. On vous mentionnera bah, évidemment le carnaval populaire, c'est maintenant, c'est à 20h, c'est place de la Croix-Rousse, venez profiter de la fête des terres. Et par ailleurs, le dimanche 28 mai, on vous invite plutôt à venir manifester contre les violences carcérales, c'est à 14h, place Bellecour. Voilà, et ben, on était hyper contents d'avoir le collectif
oui,
Grand Clément.
Oui, c'était une super émission.
Et puis bah, maintenant, c'est l'heure de votre édition de Dance,
de
je crois
dance
que c'est ça.
De disco? Non, c'était pas de la disco?
Disco dance, apparemment, entre
disco
les deux.
Dance.
Vous choisirez ce qui
c'est
vous fait plaisir. En tout cas, c'est Noise Pollution. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Au revoir, ciao. Bonne soirée, ciao.